Entre nous soit dit, une émission de Philanthropos, présentée par Fabrice Adjadj, avec aujourd'hui le cardinal Philippe Barbarin. Le mardi 21 octobre 2003, Jean-Paul II disait lors d'un consistoire ordinaire public, dans la page d'évangile proclamée il y a peu, Jésus indique, à travers son exemple, comment mener cette mission de cardinal à bien. Celui qui voudra devenir grand parmi vous, confie-t-il à ses disciples, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Marc 10, 44. Ce n'est qu'après sa mort, cependant, que les apôtres comprirent la pleine signification de ses paroles et, avec l'aide de l'Esprit, ils surent en accepter jusqu'au bout la logique exigeante. C'est ce même programme que le Rédempteur continue à proposer à ceux qui l'associent à travers le sacrement de l'ordre de manière plus étroite à sa mission même. Il leur demande de se convertir à sa logique qui est en net contraste avec celle du monde, mourir à soi-même pour devenir des serviteurs humbles et désintéressés de ses frères en fuyant toute tentation de carrière et de bénéfice personnel. Cardinal Philippe Barbarin, merci d'être avec nous pour cette première d'entre nous, soit dit, l'émission de Philanthropos. Vous étiez là lorsque le pape Jean-Paul II a prononcé cette homélie, puisque c'est l'homélie qui a été prononcée lors de votre création comme cardinal. Se convertir à la logique du Christ qui n'est pas la logique du monde. Comment est-ce que vous entendez ces paroles aujourd'hui ?
Elles ont une valeur universelle et extraordinaire, illuminée par, pour moi, ce qui est la plus belle image, c'est le lavement des pieds. Donc on est dans une atmosphère amicale, fraternelle, dans un jour de fête de celui de la Pâque des Juifs, et avant ce repas, je ne sais pas si vous connaissez bien le passage en Jean 13, on est à 15 000 mètres d'altitude, c'est comme un second prologue de l'évangile de Saint Jean, le Seigneur Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde avant de passer de ce monde à son Père, les aima jusqu'à l'extrême. Et puis au verset 3, alors il prend un linge, une bassine, il met de l'eau, et puis il met autour de la taille. Ça, pour moi, c'est la spécificité du christianisme. C'est-à-dire, on est de 15 000 mètres d'altitude, au pied de son voisin. Et c'est extraordinaire. Donc, celui qui lave les pieds, c'est l'esclave. C'est pas seulement un serviteur qui va te rendre des services, c'est l'esclave. D'où la révolte légitime et bien compréhensible de Pierre. Tu vas pas me laver les pieds ! Et Jésus qui lui dit, si je te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. C'est là qu'on voit que Pierre est un garçon très sympa. Il dit, bon, alors, pas seulement les pieds, mais aussi la main, la tête, etc. Bon. Et Jésus continue, pour moi c'est très intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce chemin spirituel, de voir Jésus lavant les pieds de Jean, de André, de Thomas, de Philippe, ceux qu'on connaît le plus. Qu'est-ce qu'il pense Saint Philippe quand Jésus lui lave les pieds, tiens ? Saint Philippe, il est peut-être moins connu, mais en fait il est très proche de Jésus dans plein d'endroits.
C'est votre saint patron.
En outre, voilà. Et Saint André, c'est son grand frère. Philippe ne fait rien sans André, si vous regardez bien dans l'évangile de Saint Jean. C'est toujours par André qu'il découvre Jésus, qu'il va vers Jésus. Alors ils sont là, en train de s'observer les uns les autres. Pierre a réagi, donc les autres comprennent qu'ils doivent se taire. Et puis Judas, il lave les pieds à Judas. Bref, une fois que c'est fait, c'est une méditation qui doit vraiment être faite longtemps. Jésus se lève, il dit, vous m'appelez le maître et le seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si moi, le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même les uns pour les autres. Voilà. Je suis très content parce que avant c'était un geste qu'on ne voyait que dans la liturgie du soir du jeudi saint, et maintenant dans beaucoup de groupes chrétiens ça se fait. Eh bien, au cours de cette veillée, on se lavera les pieds de son voisin, les uns les autres, parce que Jésus l'a dit, il l'a demandé. Alors, symbolique bien sûr. Enfin, ce que je sais, c'est que ma vocation, c'est d'être un serviteur. Je vous donne cet exemple parce que quand je suis devenu archevêque de Lyon, le samedi suivant, je vais exprès à Vaux-en-Velin, qui me rappelait la banlieue parisienne où moi-même j'avais été prêtre. Et, l'église de Vaux-en-Velin, c'est une église où il y a 32 nationalités. Et il y avait des petits tamouls qui étaient là, deux garçons qui avaient 10-12 ans avec leurs parents. Alors on parle, ils viennent se faire bénir, tout ça, et je leur dis, ben, je vais vous demander de prier pour moi, et vous direz, Seigneur, nous prions pour notre évêque Philippe, donne-lui toujours un cœur de serviteur. Répétez. Donc les deux gamins répètent, les parents sont tout contents, et puis voilà, bon. Je les revois 10 ans plus tard. Monseigneur, vous nous reconnaissez ? Non, pas vraiment. Moi, je suis étudiant en musicologie, je suis etc. Vous savez, on était à Vau-en-Velin, le premier jour que vous êtes arrivé. Tous les jours depuis, on l'a fait. Comme j'ai dit, ça, c'est quand même un réconfort incroyable, la prière de ces jeunes. Donc, en fait, si j'ai quelque chose à demander pour un prêtre, pour un évêque, pour un pape, c'est donne-lui, Seigneur, un cœur de serviteur. S'il a un cœur de serviteur, tout est gagné. Moi, c'est vraiment majeur, quoi.
Vous disiez que c'était le cœur du mystère, enfin ce qui était spécifiquement chrétien, que à propos de ce passage de Jean, l'extrémité de l'amour qu'on pourrait s'imaginer comme faisant des choses extraordinaires, eh bien cette extrémité de l'amour, elle se joue vraiment dans un geste simple, un geste concret. Comment se jouent ces gestes justement concrets dans la vie d'un pasteur? Est-ce que c'est d'abord la prédication, on s'attend à ça, mais est-ce que dans la vie d'un pasteur aujourd'hui, d'un archevêque, il lui est donné de sortir, on pourrait dire, des cadres conventionnels, de pouvoir entrer dans ces gestes, des gestes aussi concrets que le lavement des pieds avec ses fidèles?
Ben oui, tous les jours. Hein. Hier soir, après la messe, j'étais à dire bonjour à Fribourg. D'un coup, arrive un monsieur en larmes. Et qui me dit, mon fils a 16 ans, il est en train de mourir. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi? Bon, alors à ce moment-là, bon, on s'arrête. Les autres n'ont pas à dire bonjour, c'est lui qui prime. Alors racontez-moi votre fils, racontez-moi qu'est-ce qui lui arrive, comment est-ce que vous vivez ça, je veux savoir son prénom. Demain, je célébrerai la messe pour lui, etc. Donc en fait, constamment, par une lettre, par une rencontre, moi, je me bats beaucoup en tant qu'évêque ou cardinal de rester prêtre. C'est-à-dire de garder un peu de direction spirituelle. Par exemple, le vendredi soir, je suis dans la cathédrale, à la porte d'entrée, pendant une heure avant la messe du soir. Alors, viens, c'est très varié, c'est pas fatigant d'ailleurs aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent se plaindre et ceci et cela, mais il y a une vieille dame, par exemple, qui a 88 ans, elle me dit, ben, depuis que j'ai perdu mon mari, je viens tous les vendredis. Et rien que de vous serrer la main, ça me donne du moral pour la semaine. Une autre fois, c'est, on va se fiancer dimanche, alors notre prêtre qui nous prépare au mariage, elle dit, allez vous faire bénir par l'évêque. Alors les gens qui sont là, je dis, ben, c'est des fiancés, ils vont se fiancer dimanche, alors ils se mettent à genoux, tout le monde se met autour, et puis on prie pour eux, et puis ils s'en vont, aujourd'hui, on a appris que maman attendait encore un bébé, alors c'est le cinquième enfant de la famille, alors on vient tous à la messe. Alors, est-ce que vous pouvez venir bénir maman et son bébé? Oui, bien sûr. Enfin, il y a à la fois du joyeux, du douloureux, du quotidien, de l'amour familial, quoi. C'est-à-dire le plus concret du concret. Bien sûr, plus douloureux, c'est par exemple les quantités de réfugiés qu'on a qui arrivent d'Albanie, du Kosovo, et qu'on héberge dans des conditions extrêmement précaires, malheureusement, dans différentes villes de la banlieue lyonnaise. Alors là, on va passer des heures avec eux. Donc on chante, on prie. Là, il y a les musulmans et les chrétiens. Mais tout ce monde-là s'entend très bien. Et puis on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour la santé, la scolarisation, le nouveau logement, etc., etc. Donc, c'est vrai, quand on est évêque, il y a beaucoup de réunions et de dossiers, de courriers, de papiers. Mais il y a surtout les personnes, quoi.
Vous dites rester prêtre, dans cette proximité-là, comme un curé avec ses paroissiens. Mais vous avez parlé d'amour familial, vous n'avez pas dit rester père. Comment est-ce que vous pensez la dimension, justement, de la paternité dans le sacerdoce et plus spécialement dans sa plénitude qu'est l'épiscopat?
J'ai toujours un peu peur, parce que Jésus dit « Vous n'avez qu'un seul père ». Donc ce que je voudrais, c'est n'être que le relais de Jésus. Parce que lui... jamais il parle de sa paternité non plus. Donc nous n'avons qu'un seul père, et nous savons que le père a mis tout son amour dans la personne de Jésus, et que tout cet amour se trouve dans notre sacerdoce ici, quand on va baptiser, quand on va pardonner, quand on va donner la parole, quand on va bénir, quand on va encourager, quand on va fortifier, etc. Je sais pas si les autres, peut-être ils voient la paternité, mais c'est, je pense pas que ce soit tellement à nous d'en parler. De fait, c'est bien ce qui se passe, quoi. Vous voyez, par exemple, la question de Philippe à Jésus dans Jean 14, quand il lui dit « Montre-nous le Père », c'est une question un peu blessante pour Jésus. Mmh. Un peu comme si on disait toi, ça fait déjà 3 ans qu'on t'entend, donc on connaît ton sourire, la couleur de tes yeux, ta barbe, etc. Alors, puisque tu nous parles tout le temps du Père, montre-nous le Père. Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne sais donc pas que celui qui me voit voit le Père. Donc on a, d'une certaine manière, Jésus semble déçu du fait que Philippe n'ait pas perçu que tout était donné dans la personne de Jésus, dans la proximité de Jésus, dans sa parole, ses gestes, sa présence au milieu d'eux.
On pourrait dire d'ailleurs que dans la Bible, il y a une méditation, enfin une critique de la paternité pensée à partir du patriarcat, et que la paternité se déploie, la paternité humaine, d'abord en se reconnaissant comme fils de Dieu et comme fils du Père.
Je pense que ce point-là est un point très intéressant dans le dialogue avec les musulmans. C'est-à-dire que quand on dit la première phrase du credo, elle est commune, absolument commune, avec les juifs évidemment, mais avec les musulmans. Créateur du ciel et de la terre, tout puissant, de l'univers visible et invisible, il croit aux anges aussi, bien sûr. Et on bute sur le mot père, il dit, mais pour nous, Dieu n'est pas père. Ben, j'ai dit, peut-être que si. Regardez ce que Jésus dit. N'appelez personne père sur la terre, car vous n'avez qu'un seul père, il est dans les cieux. Donc ton papa sur la terre est un relais de l'unique paternité. Ce qui prouve que c'est d'une toute autre nature et quelque chose de tout à fait exceptionnel. Hors normes, hors expérience humaine. Vous êtes d'accord avec ça? Donc en fait, quand on dit on est opposé sur ce point essentiel, je ne suis pas si sûr.
Et en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas dire justement que dire Dieu n'est pas le Père, ça, c'est une manière de s'arroger un patriarcat terrestre et de concevoir la figure du Père humain comme une figure un peu despotique à la source de tout?
Bah, c'est sûr.
Qui peut être un problème dans l'islam, justement.
Je ne suis pas père de famille, mais je suis père dans un diocèse, etc. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui menace ceux qui exercent la paternité ici sur Terre, chrétiens ou musulmans. C'est-à-dire que, même pour les mamans aussi, hein, une maman qui est captatrice, moi, c'est pas ce qu'elle fait de mieux pour ses enfants. Donc, le fond de l'affaire, si on veut dire au point de départ, c'est justement celui d'être un serviteur.
Et d'être un fils, vivre sa propre filiation.
Voilà. Je pense que celui qui est constamment en train de recevoir sa vie comprend tout ce qu'il doit donner aux autres, puisqu'il ne vit que de ce qu'il a reçu. Vous savez, à la fin de Marc 10, il lui dit celui qui aura laissé une maison, des frères, un père, une mère, etc., etc., il recevra au centuple, et il y a la liste. Mais dans la liste suivante, il n'y a plus le père. Et vous aurez au centuple des mamans, des frères, des sœurs, des maisons, etc., mais pas père, parce que des pères, il n'y en a qu'un seul. Virgule. Avec des persécutions. Ah, il a rajouté persécutions.
Cardinal, vous êtes né à Rabat, au Maroc, puis après vous avez fait vos études à Paris. Vous avez été ordonné en 77 pour le diocèse de Créteil. Vous êtes resté 17 ans prêtre en banlieue parisienne. Et puis vous êtes parti à Madagascar pendant 4 ans. À Fianarantsoa, je ne sais pas si je prononce bien, période qui va précéder celle de votre ordination comme évêque de Moulins, votre première ordination. Et vous avez été ordonné justement par un archevêque malgache, celui de Fianarantsoa. On a l'impression que pour vous, cette expérience malgache a été de toute importance. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Qu'est-ce que vous avez trouvé là qui vous a transformé et que vous n'aviez pas trouvé encore en France et en région parisienne?
Ça va être long, hein, il va falloir m'arrêter. J'étais la semaine dernière, donc j'arrive là de Madagascar. Ils ne peuvent jamais aller au JMJ. Quand il y a les JMJ à Cologne, à Madrid ou à Rio de Janeiro, ils vont en envoyer 5 pour tout le pays. Donc ils ont décidé de faire des JMJ, journée malgache de la jeunesse et non plus mondiale, une fois tous les 3 ans. Donc il y a 3 ans c'était à Siranana, Diego Suarez, cette fois-ci c'était à Fianarantsoa, on dit Fianarantsoa, même s'il y a un à la fin, peu importe. Et donc il y a 30 000, 60 000, peut-être dimanche dernier 80 000 jeunes à la messe. Et ils viennent, et alors je leur ai dit, mais invitez le pape. Le pape François, il va venir, il va être tellement content d'aller au JMJ d'un pays de jeunes qui ne peuvent pas se rendre au grand JMJ mondial. Comme vous savez, le pape était donc à Philadelphie, New York et Washington, après Cuba. Et alors, ils sont tournés vers moi, ils m'ont dit, tu sais, je crois qu'il n'y a qu'un seul cardinal à moitié malgache dans le monde, c'est toi, donc il faut que tu viennes. Je ne suis pas fait prier, hein, j'étais content. Et alors, qu'est-ce que ça a représenté 4 ans pour moi là-bas? D'abord, une vérification personnelle. Mon père spirituel m'avait dit avant de partir, il m'avait dit, vous savez, les voyages enrichissent, mais les séjours appauvrissent. Bon, j'avais pris ça comme une formule, mais j'ai bien vu que c'était pas une formule. Et donc, moi, je savais bien que j'allais être coupé de ma famille, que j'allais plus voir mes copains prêtres, etc. Mais j'étais content, parce que c'est un autre métier, nouveau, etc. Mais non. Je pouvais plus célébrer de baptême, je pouvais plus confesser, je pouvais plus aller dans des familles, je pouvais plus célébrer de mariage. Hors de question d'aller dans une famille parce qu'elles sont beaucoup trop pauvres et donc elles auraient même pas voulu vous recevoir. Et puis, donc j'étais là comme un professeur de théologie, chargé d'organiser la bibliothèque, c'était un métier nouveau. Et puis tout ce qui avait été le fond de ma vie de prêtre et de mon ministère disparaissait. En plus de l'étrangeté de la langue, qui n'est pas une langue particulièrement difficile, mais qui est une langue totalement étrangère, complètement étrangère. Et donc ça a été un appauvrissement incroyable tout d'un coup. Il n'y a plus les amis, le courrier arrive quand tu veux, il n'y avait pas de téléphone portable, ni d'ordinateur, ni de mail, etc. Et finalement, c'est là qu'on voit si oui ou non on est attaché à Jésus, quoi. Voilà. Donc là, on est bien obligé de voir la vérité de cet enracinement dans le sacerdoce du Christ et dans la vie du Christ. Premier événement spirituel intérieur. Deuxième, le désastre de la pauvreté dans ce pays. Ah, ça, c'est terrible. Donc, une tempête contre le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourquoi tu ne donnes pas de pain à César ? Ce sont tes enfants, quand même. Pourquoi est-ce que d'un côté, on jette la nourriture et ici, on manque... Enfin, je les voyais ramasser des rien du tout. Enfin, une très, très, très grande misère, quoi. Il y a un passage de Saint-Augustin où il dit « Si tu sais qu'il y a un endroit du monde où les gens meurent de faim, si toi tu le sais, alors dis-toi que c'est toi qui les as tués, si tu n'as rien fait. Oh, » Franchement, là, je savais. Près de Talatin, non pas nous, j'avais vu, je savais où il y avait des endroits où il y avait des enfants qui mouraient de faim, quoi. Et le monde entier le sait. Et donc là, il y a une très grande colère, parce que « Seigneur, mais donne du pain à ceux qui ont faim, et puis si tu pouvais donner faim à ceux qui ont du pain aussi, parce qu'ils sont là complètement gavés, sans plus aucune faim intérieure. » Enfin, c'est un vrai combat, quoi. Bon, ça a été une assez grosse souffrance. Après, il y a eu pratiquement pendant un an ou deux, je comprenais rien. Donc je célébrais la messe, j'avais appris la messe par cœur. Donc comme je savais la messe en français, l'apprendre en malgache c'était bien, puis je m'y retrouvais. Mais sinon je comprenais rien des homélies, je comprenais rien des avis, donc toute la communauté rigolait, je comprenais rien. C'est assez éprouvant. Et puis petit à petit ça a changé, parce que j'ai compris. Et parce que j'ai pu recevoir des séminaristes en direction spirituelle, puis après j'ai pu aller célébrer dans des villages, dans la campagne, dans la brousse. Et puis c'est devenu ma famille. Et de plus en plus. Puis là, ils ont vraiment une attention, une atmosphère communautaire extrêmement forte. C'est un pays très communautaire. Par exemple, là-bas, on dit jamais que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Il n'y a jamais de vous dans la liturgie. Il y a toujours nous. Tout est inclusif. Le célébrant est à l'intérieur même de ceux avec qui il célèbre. Et il y a une très, très grande unité d'âme, si l'on peut dire. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors, ils sont très réservés. C'est un peuple très noble, discret, mais très attaché et attachant. Ce qui fait quand je suis parti, ils m'ont dit, tu sais, je ne savais pas que je deviendrais évêque, tu reviendras ici quand tu veux, à chaque fois que nous verrons les prêtres que tu as formés quand ils étaient séminaristes, on pensera à toi, et on dira merci de ce que tu nous as apporté. Donc un au revoir très discret, magnifique et profond. Et c'est vrai, quand j'y retourne, je suis comme à la maison.
Vous avez toujours été ouvert à... disons à dialogue avec l'autre, alors là c'est l'étranger malgache, même s'il est chrétien, mais on vous connaît aussi pour votre art du rapprochement, puisque vous avez reçu même un prix qui porte ce nom-là, avec les autres religions, alors aussi bien le dialogue avec les musulmans que le dialogue avec les juifs. Vous avez même fait un très beau livre d'entretien avec le rabbin Gilles Bernheim, qui est un de vos amis, je pense. Je voulais vous interroger sur ce sujet-là. Qu'en est-il de la vérité de ce dialogue ? Qu'est-ce que c'est qu'avoir un vrai dialogue ? Et aussi, est-ce que il n'y a pas quelle est la distinction, on pourrait dire, entre le dialogue qu'on doit avoir avec les juifs et le dialogue avec les musulmans, parce qu'on pourrait, voyez, tout voir à égalité, et le dialogue pourrait nous faire entrer dans une sorte de d'amalgame ou de mélange où le non chrétien devient une sorte d'être indistinct. Est-ce qu'il n'y a pas une importance à hiérarchiser le dialogue aussi, notamment celui avec les juifs et celui avec les musulmans?
Ce sont des questions profondes, donc Pendant que vous parlez, j'entendais aussi le dialogue avec la culture africaine, avec la culture malgache, en dehors du judaïsme, en dehors de l'islam et en dehors du christianisme, et qui est encore tout un monde fort intéressant, assez beau, enfin qui a sa beauté quand on le découvre, quoi. Alors, il y a évidemment une place particulière pour les juifs. Bon, vous savez que dans les dicastères romains, précisément, c'est bien marqué parce que il y a les autres, il y a un dicastère qui est celui de l'œcuménisme ou de la promotion de l'unité des chrétiens et des relations avec les juifs, parce que les juifs, c'est la racine commune de tous les chrétiens. À Lyon, nous faisons, sur la copie de ce qui se fait déjà dans l'église d'Italie, quand il y a la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier, j'ai proposé au grand rabbin qu'on fasse le 17 janvier une journée judéo-chrétienne. Et donc, c'est très intéressant. La première fois, avec le grand rabbin, justement, on a commenté Deutéronome 6,4, enfin, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le rabbin a fait un Talmud Torah de 40 minutes, et puis moi j'ai fait un commentaire de 40 minutes, voilà. J'étais très content parce que quand le rabbin fait un Talmud Torah, on apprend plein de choses. Et c'est comme quand tu vas écouter les grands-parents. Donc tes grands-parents, ils te racontent des choses sur papa, sur maman, etc. Enfin, t'es content, t'as l'impression d'être dans la maison des grands-parents. Moi, quand je vais à la synagogue, j'ai l'impression d'être dans la maison de mes grands-parents. Et alors, on m'explique Jésus quand il était enfant, comment il priait. Enfin, je suis très content parce que j'aime tellement Jésus que tout ce qui me dit quelque chose des racines de Jésus m'intéresse beaucoup. J'apprends beaucoup. Dans la discussion avec le rabbin Bernheim, j'ai appris des quantités de choses sur les qui me servent dans mes sermons après. Sur ce qu'on appelle les 10 commandements, sur le sens de la glorification et de l'honneur dû aux parents, enfin énormément de choses. Lui, je ne sais pas ce qu'il apprend d'ailleurs, c'est plus difficile. Ce n'est pas parallèle, effectivement, comme vous avez dit. Et alors je me rappelle, après cette première rencontre, le grand rabbin de Lyon qui me dit « Oh, je vous ai écouté faire le commentaire de la Torah. Ah ben dis donc, c'est la première fois que j'entendais un chrétien faire le commentaire de la Torah. Ben, ça se voit que vous l'aimez. Hein. » Je dis « Mais monsieur le rabbin, c'est la parole de Dieu. » Mais t'es content aussi. Donc il était heureux de voir un chrétien qui connaissait la Torah de près, quoi. Ben, je lui ai dit, vous savez, pour nous, la parole de Dieu, on la vénère, quoi. Ah là là. Alors une autre fois, j'ai fait le commentaire de Michée 6,8, on t'a fait savoir, ô homme, que de rien d'autre que d'aimer avec tendresse, enfin un texte superbe, avec le grand rabbin de Belgique. Type formidable. Et alors, il me dit, ben, j'étais content parce que je connaissais pas bien Michée. Hein. Alors il avait travaillé beaucoup et on avait travaillé tous les deux. C'était une belle rencontre. Une autre fois, on a fait une rencontre à trois voix, une femme, pasteur protestant, un rabbin et moi sur le psaume 102, qui est un espèce de magnificat dans le psautier. Vous savez, béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de tes bienfaits. Et alors après, vous avez la cascade des grâces qui sont là, car il pardonne toutes tes enfances, il rachète ta vie à la tombe, il ceci, il cela, etc., etc. Triple commentaire, c'était extraordinaire. Donc je pense que c'est un dialogue très enrichissant parce que tu vois la prière de l'autre, la foi de l'autre quand il l'exprime, sa recherche, les questions que ça lui pose. Et donc en fait, on apprend vraiment beaucoup.
Mais alors justement, avec les musulmans, il n'y a pas cette parole commune, puisque comme on sait, les écritures, enfin la Bible, selon eux, aurait été falsifiée par les disciples. Donc la référence, c'est le Coran. Ce que vous pouvez faire justement avec des rabbins, vous ne pouvez pas le faire avec un imam. Alors qu'est-ce que vous faites et quelle est la nature du dialogue ?
Est-ce que je peux terminer d'abord avec le rabbin ? Parce que j'ai une chose que je voulais dire dans les discussions avec le rabbin Bernheim. Et quelqu'un ayant lu le livre m'a dit ça, il dit « On voit ce que vous recevez de lui, mais on ne voit pas ce qu'il reçoit de vous. » Et une fois, j'ai posé la question à Gilles. Donc, on s'entend bien, vraiment. Et il m'a dit... Après, il lui a été posé en public. On était dans une conversation à la librairie Kléber à Strasbourg. Et quelqu'un lui dit, vous, monsieur le grand rabbin, qu'est-ce que vous recevez du cardinal ? Et il a dit, ben, en fait, normalement rien, parce que Jésus, c'est un juif marginal pour nous. Mais en fait, beaucoup. Parce que les questions qu'il me pose, eh ben, après, je vois que le lendemain, elles sont dans mon étude. Alors, le matin, par exemple, un jour, on était à New York ensemble. On arrive au petit déjeuner. Et alors lui, il savait, il avait fait son Talmud Torah. Et moi, j'avais fait mon oraison. Souvent, on arrivait le matin, et là, il y avait les prières qu'on avait faites, et puis il y avait... Je pense que l'oraison correspond à l'étude pour lui. Et donc, dans le matin, il fallait qu'il y ait une nos prières, c'est-à-dire nos psaumes, mettons pour moi, par exemple, les laudes et les lectures. Comme pour lui, il y avait les prières qu'il devait dire. Puis, il y avait son étude de la Torah. Et alors après, il me dit, ben, je vois qu'en fait, vos questions, les questions que vous me posez, elles viennent prendre place. Et qu'elle bouge quelque chose dans ma façon de regarder la Torah. Moi, c'est une ébauche de réponse. Alors, pour en venir aux musulmans, évidemment, ça n'a rien à voir. Donc je crois qu'avec eux, il y a un chemin d'abord qui est le chercheur de Dieu. C'est-à-dire le musulman qui prie, qui cherche Dieu, qui veut trouver véritablement le sens de l'adoration, par exemple, le sens de l'obéissance à Dieu, le sens de l'écoute intérieure, le sens de la prière pour la miséricorde. Ce sont des continents très importants dans la foi des chrétiens et dans le dialogue avec eux. Et donc, on va pouvoir discuter clairement. Par exemple, je me rappelle un colloque que j'avais fait à Lourdes avec le président du conseil régional du culte musulman, un homme remarquable, Azedine Gassi. On avait expliqué ce qu'est un pèlerinage pour le musulman et pour le chrétien. Et lui, par exemple, quand il est parti en pèlerinage à la Mecque, il devait avoir 42, 43 ans, il me dit « Monseigneur, je vous appelle avant de partir à la Mecque, parce que vous savez, c'est un événement premier, majeur dans ma vie, peut-être unique. S'il vous plaît, accompagnez-moi de votre prière. » Et sincèrement, j'avais prié. Alors qu'est-ce que je demande à Dieu pour un musulman quand il est au pèlerinage à la Mecque ? S'il m'a demandé de prier pour lui. J'ai dit « Seigneur Dieu, toi qui es son père, donne-lui tous ceux dont tu penses qu'il a besoin. » C'est le mystère de Dieu dans la liberté d'un autre. Est-ce que ça veut dire que... Il n'y a pas de texte commun, comme vous l'avez dit, ni dans la Bible, ni dans les psaumes, etc. Il me cite des passages du Coran, mais qui ne me parlent pas. J'écoute le commentaire, il y a certaines phrases que j'ai retenues, qui ont leur beauté, etc. Mais évidemment, ce n'est pas du tout une parole de Dieu pour moi. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discussion théologique. Par exemple, sur la paternité, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je vous prends peut-être, par exemple, sur les pratiques concrètes. Un jour, nous étions dans l'aéroport d'Alger, c'était le mercredi des cendres au matin. Donc on avait été rendu visite à Tibérine, etc. Bon, il y avait des colloques à Alger. Et moi, je devais être le soir pour la messe des mercredis des cendres à Lyon. Et tout d'un coup, je l'attaque un peu, parce qu'on est des bons amis, et je lui dis, mais quand même, c'est un peu absurde d'avoir à 5h moins le quart du matin le muezzin, et tout d'un coup, il faut se lever et aller prier. Il me dit, oui, c'est souvent très formaliste. Enfin, quand même, ça marque la journée. Vous avez bien les lots de l'office du milieu du jour, les vêpres, et la prière du coucher décomplie.
L'Angélus qui ressemble au Médecin.
Donc, et puis, ça nous rappelle. Parce que quand il n'y a pas une heure fixe, ben, des fois, on oublie. Ah, j'ai dit, oui, ça, c'est vrai. Et puis, il me dit, mais d'ailleurs, de toute façon, pour moi, vous voyez, la phrase que j'aime le plus de Jésus dans l'Évangile, on l'a aussi dans nos hadiths du prophète, c'est... quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. J'aimerais bien qu'on ait les deux autres. Quand tu jeûnes, parfume-toi le visage, un peu pour donner le change, vous voyez. Ou quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre et prie ton père dans le secret. Parce que c'est ce que Jésus dit à propos du secret, on n'a qu'une des trois chez nous, mais c'est vraiment très très important. Pourtant, chez nous, on nous dit aussi, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, mais dans la rue, arrête-toi auprès d'un pauvre. Parce que si plus personne ne s'arrête auprès d'un pauvre, alors que va devenir la rue ? Le soir, j'arrive à la cathédrale de Lyon et j'ai ce texte, Matthieu 6, avec les trois exemples, comme tous les ans le mercredi décembre. Et j'ai fait un sermon dont 60% me venait d'un musulman. J'ai pas besoin que je le dise. Mais lui, dans sa prière et dans le commentaire qu'il m'avait fait le matin dans l'aéroport, il m'avait nourri ma prédication. Est-ce que je reçois rien de lui ? Pas du tout, au contraire. Est-ce que je lui apporte ? Certainement aussi. Mais c'est difficile de dire ce qu'on apporte aux autres. On peut dire ce qu'on reçoit. Mais, par exemple, un jour, il vient me voir et puis il me dit « Monseigneur, souvent, nous, les musulmans, on dit que vous, les chrétiens, vous êtes incohérents dans votre foi parce que vous croyez en la Trinité. Donc, il y a un seul Dieu, mais qu'il y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais enfin, je vous connais assez et je suis sûr que votre foi n'est pas incohérente. Alors, s'il vous plaît, expliquez-moi la Trinité. » Ah, ça, c'est beau. Et donc, tu poses cette question à des chrétiens. Eh bien, qui se lance, tiens ? Qui se lève et puis qui se lance ? Et qui se met à expliquer la Trinité ? Alors, je lui dis, mon cher ami, c'est un complément d'objet direct qui va assez mal avec le verbe expliquer, quoi. Voilà, d'abord, premièrement, parce que ça nous dépasse pas mal. Et puis après, je fais comme je peux. Et donc, je me lance. Et je lui dis, je crois comme vous en un seul Dieu. Par conséquent, j'aimerais bien être respecté. Si je dis, non, je crois en Dieu, je crois en un seul Dieu, eh bien, c'est que je crois en un seul Dieu. Donc, j'aime pas qu'on me dise que je crois en plusieurs dieux. Bon. Ensuite, tout puissant comme vous, créateur comme vous, créateur du ciel et de la terre comme vous, de l'univers visible et invisible comme vous. Alors, là, peut-être la différence est dans tout puissant, ou l'interprétation de tout puissant. Tout puissant, c'est pas comme Jupiter, c'est pas comme la puissance d'un bloc de béton qui vous écrase. Vous savez bien que Dieu est amour, Dieu n'est que miséricorde. Ils le disent tout le temps, à chaque fois qu'ils disent son nom. Rahman Rahmin, Dieu très miséricordieux, tout miséricordieux. Or, l'amour, c'est de se donner. Donc, Dieu, il est tout le temps en train de se donner. Ben, Dieu qui se donne, les pères de l'Église, ils disent Pégé Pasestéotétos, la source de toute divinité. Nous, on l'appelle le Père. Et Dieu qui est reçu, et Dieu qui est cet amour donné, on l'appelle le Fils, tout entier donné, tout entier reçu. Et Jésus, dans l'Évangile, il dit « Tout ce qui est à mon Père est à moi, tout ce qui est à moi est à mon Père, etc. » Et la circulation de cet amour, on l'appelle le Saint-Esprit, mais on voit bien que c'est un seul Dieu, un seul amour, qui est en mouvement perpétuel. Et à ce moment-là, j'entends cette phrase, franchement inattendue, il me dit « Ah, merci, ouais. » Non, j'étais sûr que ça serait très beau. Autrement dit, il y a un dialogue possible. Parfois, j'entends dire à propos des musulmans qu'il n'y a aucun dialogue possible. Non seulement un dialogue ascétique sur la prière, le jeûne, l'aumône, etc. Mais à mon avis, un dialogue sur la paternité, un dialogue sur l'unicité et la trinité, avec des gens qui ont l'esprit ouvert, peut-être certains diraient hey, « c'est pas possible, en revanche, je ne veux pas vous écouter ». Bon, mais il y a un véritable dialogue possible dans certaines circonstances et il faut aussi le favoriser. Quelles en seront les conditions? Ben, quand il y aura non seulement de la tolérance, bien entendu, mais un peu plus que de l'estime mutuelle. Au fond, les choses se débloquent. Moi, ça, c'est mon avis. Hein, quand il y a de l'admiration pour l'autre. C'est-à-dire, quand tu commences à admirer l'autre... Vous voyez, par exemple, Azzedine, lui, il me dit un jour... Il me dit, oui, ces horaires des prières, ça ne va pas. Mais enfin, vous savez, on peut faire plus quand même. Parce que, par exemple, moi, je me lève toutes les nuits à 1h30 du matin. Et on peut faire des ablutions plus courtes. Et à ce moment-là, donc lui, il est père de famille, prof de fac, recteur de la mosquée de Villeurbanne, président du conseil régional du culte musulman, enfin il a du boulot quand même quoi. Et à 1h30 du matin, il se lève et il me dit, c'est très important parce qu'on prie dans les ténèbres et de la nuit. Et vous savez bien, il y a tellement de gens qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont en prison, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont suicidaires, ceux qui sont malades. Alors là, on dit, Seigneur, fais-leur miséricorde, ils ont besoin de cette miséricorde. En fait, ce n'est pas tellement éloigné de ce que font les trappistes chez nous, qui se lèvent chaque nuit, pour prier pour ceux qui sont dans la nuit. Lui, il le fait. Ouais. Moi, je ne le fais pas. Du coup, je n'ai aucune honte à dire que je l'admire, parce que c'est vrai que je l'admire. Et quand je le vois faire ça, dire cela et vivre comme il vit, ça me donne envie d'être davantage chrétien. C'est-à-dire, ça me stimule dans ma foi, ça me donne envie de sortir de ma médiocrité. Donc, il y a énormément de choses possibles. Je ne sais pas si on a le temps, mais moi j'aimerais beaucoup raconter aussi des émerveillements que j'ai eus chez les Malgaches, en dehors de toute autre religion. Et je pense que celui qui aura vécu, bon, je suis assez proche de Mgr Adoukounou, par exemple, qui est au Conseil Pontifical de la Culture, avec...
Qu'on connaît bien, qui est venu enseigner à Philanthropos. Voilà.
Bah, si vous l'avez fait parler du sillon noir.
On l'a fait parler de la culture fond, c'est-à-dire voilà. Vraiment de la des traditions africaines de son pays, le Bénin.
Et ben tout le travail, parce que lui c'est un chef d'école, vous savez, une grande école derrière lui. Tout son travail consiste à montrer l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu dans le cœur de ses enfants, dans une toute autre tradition. Ça, je l'ai vu à Madagascar aussi. Et c'est vrai que c'est assez éblouissant quand on voit vraiment des cœurs purs, quoi, qui ont été travaillés par Dieu, parce que Dieu, il aime quand même tous ses enfants. On dit, oh, ça c'est beau, quoi. Alors, naturellement, on dit que pourvu qu'ils arrivent à rencontrer Jésus et que la lumière du monde arrive pour eux, quoi. Mais on n'est pas sans admiration pour eux.
Ce que vous dites me fait penser justement à une parole du Pirkei Avot, le Traité des Pères, qui est un livre très important chez les Juifs, qui a commenté Maïmonide et la question qui est sage. La réponse, c'est celui qui est capable d'apprendre de n'importe qui. Et ce n'est pas simplement une parole morale, il y a une profondeur métaphysique, enfin théologique, puisque celui qui vient vers moi, il m'est envoyé par le Dieu créateur auquel je crois, donc il est aussi une parole de Dieu pour moi. Et si j'ai un avantage sur lui, c'est plus dans la capacité à le lire, lui, comme parole de Dieu, mais pas à l'exclure, en tout cas, comme n'ayant rien à m'apprendre. Voilà. Mais c'est très
important. C'est quand même vrai, regardez dans notre propre vie ce que nous avons appris d'un enfant. Parfois, on apprend beaucoup
de choses.
Ce qu'on a appris d'un malade, tout d'un coup, on est à côté, et il y a une phrase qui restera gravée pour toujours. Enfin, on a appris de quantité de gens, parfois dans des moments tout à fait inattendus.
Pour revenir enfin à Madagascar et à cette expérience que vous avez faite, notamment de la faim, hein, et des personnes qui meurent de faim, dans votre dernier livre qui porte le titre Dieu est-il périmé? Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez choisi.
Surtout pas.
Surtout pas.
C'est un titre de commerçant. J'ai réussi à rajouter le sous-titre. Parole de Dieu, parole de feu. Ça, j'ai eu le droit.
Mais en fait, le titre n'est pas si mauvais que cela. Puisque la question de la péremption, c'est précisément ce dont vous aviez parlé précédemment à Madagascar. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on est riche et où on jette la nourriture, en raison d'ailleurs des dates de péremption. Et que la péremption est à peu près en plus structurée comme mot à l'opposé de la rédemption, donc c'est pas sans rapport. Mais justement, je voulais vous poser une question relative à l'époque contemporaine, à ce que dit le pape François dans Laudato Si, et puis ce vers quoi il revient tout le temps, cette culture du déchet, hein, un monde capitaliste de croissance économique, de progrès, mais qui en fait multiplie le déchet avec des personnes gavées qui jettent de la nourriture à la poubelle, tandis qu'il y a d'autres zones qui restent, on pourrait dire, dans la faim, ou qui sont affamées ou exploitées. Alors, je voulais vous interroger là-dessus, sur cette question de la culture du déchet et de ce qui semble se jouer aujourd'hui. On a l'impression que tant qu'il y avait le communisme, bien sûr, il fallait défendre en partie l'économie de marché parce qu'il y avait cet adversaire en face. Mais que maintenant que le communisme est tombé, on sent dans l'Église, et pas simplement avec le pape François, mais déjà avec Benoît XVI, enfin Ratzinger, un discours qui est celui du critique, enfin de la critique du libéralisme, du capitalisme. C'est un changement, on pourrait dire, dans la manière de dire l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église. Et en même temps, c'est toujours périlleux. Vous savez que Don Elder Camara disait « Quand j'aide les pauvres, on dit que je suis un saint. Mais quand je pose la question « Pourquoi y a-t-il des pauvres ?», on dit que je suis un communiste. » Alors, est-ce que vous pensez pas qu'il est peut-être temps aujourd'hui de reposer cette question des structures et de la fabrique de la pauvreté par le monde libéral?
Je suis pas très fort en structure, moi. Ce qui me touche le plus, c'est le cœur de l'homme, quoi. Or, le cœur de l'homme est malade. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus, ça veut dire que Dieu qui va nous guérir et nous sauver. Jésus s'est présenté lui-même comme un médecin. Donc, il y avait quelque chose qui allait pas là-dedans, quoi. Et donc, il faut reconnaître ce qui est à l'intérieur de nous est malade. On dit les Malgaches, ils sont pauvres. Et nous, les Occidentaux, on est riches. Et donc, on jette et il y a la culture du déchet. Mais les Malgaches sont riches aussi. Moi, une de mes dernières colères contre eux avant que je ne parte, c'est de leur dire, écoutez, dans ce séminaire, il y a 140 séminaristes. Et vous triez et vous jetez tout ce qui est pas de la première qualité. C'est scandaleux. Si nous avions fait ça au 19e siècle, vous n'auriez pas été évangélisés. En France, à la fin du 19e siècle, on a ordonné beaucoup plus de prêtres que ceux dont nous avions besoin. Et c'est comme ça qu'ils sont allés au Mali, à Madagascar, au Congo, au Cameroun et en Amérique latine. Donc aujourd'hui, si vous en avez beaucoup, vous prenez ce que Dieu donne, vous les préparez, vous les ordonnez, et ils seront des cadeaux pour le reste du monde. Vous êtes devenus riches, et les riches, systématiquement, ils jettent. Alors qu'ils sont très pauvres matériellement, je suis d'accord. Mais il y a des points où ils sont riches. Et c'est incroyable ce défaut des riches. Donc en fait, la vraie réponse se trouve dans la première béatitude. Vous savez bien que c'est la plus difficile à vivre. Souvent je dis que la première ligne du credo, ça me suffit et il n'y a rien à expliquer après. Bon, on pourrait dire la même chose avec les béatitudes. La première béatitude, elle suffit. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Heureux les pauvres en esprit. Le mot grec, c'est ptokoi. Ptokoi, c'est mendiant. C'est-à-dire heureux ceux qui, pour la vie spirituelle, sont comme des mendiants. Seigneur, donne-moi un peu de foi, donne-moi un peu de joie, donne-moi un peu de douceur, donne-moi un peu d'amour, pour que j'arrive à aimer ceux que j'ai à aimer autour de moi, parce que je ne vais pas tellement y arriver. Pour moi, le plus beau moment du ptokoi ou de la première béatitude, c'est au moment où vous allez communier. Vous arrivez à la communion avec les mains d'un mendiant. Et vous dites, un petit peu de pain pour jusqu'à demain, s'il vous plaît. Celui qui communie comme un mendiant, alors il recevra la vie spirituelle et l'amour, et il sera en place. Moi, je connais à Lyon des gens très riches qui ont vraiment un cœur de pauvre et qui aiment les pauvres. Je les ai vus quand on est parti en Irak et tout ça. Ils faisaient attention à tous les détails de la scolarisation, des vêtements, de la nourriture. Quand on a vu tous ces chrétiens chassés de Mossoul, ils sont venus avec moi. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? On va avec vous, etc. Et ils se sont dépensés, pas seulement leurs sous, hein, mais véritablement eux-mêmes. Et je me suis dit, tiens, c'est des gens très riches, mais ils ont un cœur de pauvre. Alors certainement qu'il n'y a personne qui a un déchet pour eux. Alors, ce défaut de la richesse ou de la puissance matérielle et parfois spirituelle ou parfois intellectuelle qui jette le reste et qui déconsidère et qui méprise, c'est un défaut dramatique, mais très fréquent, vous voyez, largement au-dessus du fait de jeter les tomates dans la rue, comme on voit dans les pays où il y a surproduction, qui est aussi une expression d'une grande souffrance, parce que peut-être c'est aussi un travail qui n'a pas été considéré comme il devrait l'être. Donc, c'est pour ça que je pense que quand Jésus ouvre la bouche, hein, alors, ouvrant la bouche, il leur dit, ben, on a intérêt à faire attention à sa première phrase, vous voyez. Dans Saint-Luc, sa première phrase, c'est « Aujourd'hui ». Cette parole s'accomplit en celui qui vous parle. Dans Saint Matthieu, sa première phrase, c'est « Heureux les mendiants ». Mendiants quant à la vie spirituelle. Bon, continuons de dire « Heureux les pauvres en esprit » à condition de bien l'expliquer. Est-ce que tu sais qu'en amour, tu es très pauvre ? Est-ce que tu sais qu'en joie, en douceur, en serviabilité, tu es très pauvre ? Ouais. Ignace de Loyola, par exemple, signait chacune de ses lettres à la fin en disant « Inigo pobre de bonda ». Donc, je sais, c'est un type puissant. Le fondateur de la Compagnie de Jésus. Et il signait en disant « Ignace, mendiant d'amour ». Ça, c'est beau. Hein.
Aujourd'hui, à la veille du synode sur la famille, beaucoup de réflexions sont engagées. Je pense à ce que disait Jean-Paul II dans la lettre aux familles en 1994, qui était l'année de la famille à l'époque, l'année où vous êtes parti à Madagascar. Voilà ce qu'il écrit. Si la première route de l'Église est la famille, il faut ajouter que la civilisation de l'amour est elle aussi la route de l'Église qui avance dans le monde et appelle les familles et les autres institutions sociales, nationales et internationales, à prendre cette route précisément pour les familles et par les familles. C'est très intéressant, la famille serait à la fois ce vers quoi tendent les institutions sociales, mais ce à partir de quoi les institutions sociales se déploient. La famille dépend en effet, pour bien des raisons, de la civilisation de l'amour, dans laquelle elle trouve les raisons d'être de son existence comme famille. En même temps, la famille est le centre et le cœur de la civilisation de l'amour. Donc cette expression de Paul VI, hein, civilisation de l'amour, qui a été fréquemment reprise par Jean-Paul II, pour lui, c'est la famille qui est au cœur. Et la famille comme peut-être un des derniers lieux à la fois de génération de la vie comme donation, comme quelque chose que l'on reçoit et pas comme fabrication, comme le fait le culte de l'innovation technologique. La famille comme lieu de proximité aussi, nécessaire. Hein. On peut pas être une famille simplement en réseau ou par Twitter. Comme lieu donc aussi de résistance civilisationnelle, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui sur l'enjeu de la famille dans le monde contemporain ?
Dans ce texte de 94, Jean-Paul II a utilisé pour la première fois la fameuse expression « l'évangile de la famille ». C'est une expression bizarre, « évangile de ». Avant, on dit par exemple « l'évangile de Saint-Marc », c'est une erreur. C'est l'évangile selon Saint-Marc. L'évangile, c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Les seules expressions que vous voyez dans l'Écriture, c'est « évangile de Jésus-Christ selon » ou « l'évangile de Dieu ». Et dans le Nouveau Testament, vous voyez là des formules qui changent. Dans Acte 20, par exemple, Paul fait l'adieu aux anciens d'Éphèse, il est à Milet, et lui dit « Je n'ai rien voulu faire d'autre parmi vous que de vous annoncer l'évangile de la grâce. » Ah. Autrement dit, il récapitule toute son action sur un mot. Dieu vous fait grâce. La vie sera plus forte que la mort. Dans la seconde aux Corinthiens, vous voyez encore cette expression, mais avec la gloire. Et il dit, c'est l'évangile de la gloire. C'est-à-dire, j'ai eu des tribulations à n'en plus pouvoir supporter, etc. Mais la masse des souffrances que j'ai eues n'a rien à voir avec la masse éternelle de gloire qui m'attend. Et il faut annoncer l'évangile de la gloire. Et on voit ça deux, trois fois dans le Nouveau Testament déjà. Et après, eh bien, une manière d'essayer de concentrer toute l'espérance du message chrétien sur un mot. Evangelium Vitae en 95, l'évangile de la vie. Et donc vous avez, par exemple, 81 déjà, quand il fait son encyclique sur le travail, Laborem Exercens, l'évangile du travail. Superbe. Alors les gens vont dire, oh ben non, ça c'est pas un évangile, le travail c'est fatigant. Non. Mon père travaille toujours. Moi aussi je travaille, dans Jean 5, 17, vous savez. C'est-à-dire, la création du monde c'est un travail d'amour donc, que Jésus est toujours en train de poursuivre et qui a été fait dans le Verbe, etc. Donc, c'est une très grande joie pour toi quand je te montre comment tu peux poursuivre l'œuvre du Créateur car tu as été fait à l'image du Créateur. Donc l'évangile du travail c'est beau. Arrive l'évangile de la famille. C'est-à-dire, c'est un mot, une expression à partir de laquelle je peux récapituler tout ce que j'ai à te dire. Vous devez vivre comme des frères et sœurs, vous savez bien, puisque vous n'avez qu'un seul Père. Et d'ailleurs, quand vous regardez comment on parle de l'Église dans la première épître de Pierre et dans le Nouveau Testament, on n'en parle jamais comme d'une communauté, d'un groupe, etc. Ils disent « la fraternité ». Salue la fraternité de ma part, que la fraternité dans le monde. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs nos Bibles ne reprennent pas ce mot qui est là.
Et alors, il dit l'amour. Les plus spirituels, les plus mystiques, pour parler de la vie chrétienne, sont finalement des mots dérivés de l'expérience familiale.
Si l'on peut dire. Par exemple, la Philadelphie, c'est vachement beau. À un moment, il dit Philadelphia. C'est-à-dire l'amour fraternel qui va exister entre vous, c'est ça. Alors, je vois bien qu'il y a des clashs et qu'il y a des difficultés. Et donc, il le voit tout le temps. Il dit qu'il n'y a pas de jalousie entre vous, etc. Déjà, dans les actes des apôtres, ça éclate, même dans l'Évangile. Ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est quand même pas très brillant comme conversation. Et Jésus, gentiment naïf, qui leur dit « De quoi vous parliez, les garçons, en marchant, là ?» Et eux, ils n'osent pas trop dire. Le pire, c'est entre Paul et Barnabé. Paul, il doit tout à Barnabé. C'est Barnabé qui l'a lancé, c'est Barnabé qui l'a fortifié, qui l'a mis dans la communauté. Puis à un moment, il se bagarre à propos de Marc. Donc Paul dit « Tant pis, je peux plus te supporter. Je pars avec Silas et Barnabé va partir avec Marc. » Le texte dit pudiquement « Alors, on s'échauffa. » Et on se sépara. Ça a dû être quelque chose. Donc on voit bien qu'arrive dans des familles, il y a des bagarres aussi.
Mais les frères se séparent souvent, et puis même le fils quitte son père et sa mère. La famille est une structure missionnaire, elle n'est pas un lieu de repli.
Et avec des souffrances. Parce que quand le fils s'en va avec la moitié de l'héritage du père, c'est quand même comme s'il avait tué son père, quand même. Faut pas oublier ça. Donc, il y a des souffrances énormes. Et en fait, quelque chose de ineffaçable. Ton père restera toujours ton père. Et dans cette parabole, on le voit, il l'a sur la porte en disant, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va revenir? Il va certainement revenir. Ça ne quitte pas ses tripes, quoi. Et la miséricorde, c'est ça. La miséricorde, raham, dans la Bible, c'est les entrailles. Il nous aime avec les entrailles. Donc, ça risque pas d'être un abandon. Alors,
l'amitié peut d'une certaine façon se rompre. Mon ami peut ne plus être mon ami, mais mon père ou mon frère seront toujours mon père et mon frère.
Même si les relations sont très difficiles, restera toujours. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Mon prédécesseur, le cardinal Billet, avait dit ça. Il nous est pas demandé d'être des amis, mais le Seigneur a fait de nous des frères. Voilà, ça, c'est quelque chose de fondamental. Je pense que ce mot de fraternité devrait reprendre toute sa place dans l'Église. Alors, pour reprendre l'idée de l'Évangile de la famille et de cette lettre aux familles de 1994, elle arrive, à ce moment-là, vous avez fait allusion à Madagascar, l'exhortation apostolique du pape sort en 1995. Et là, c'est un retentissement considérable en Afrique. Et à partir de là, dans tous les pays d'Afrique et de Madagascar aussi, on présente l'Église comme famille. Voilà. En fait, c'est pas tout à fait juste aussi, parce que on risque de faire de l'évêque le pater familias et refaire une église patriarcale. Donc, il faudrait bien dire, attention, nous n'avons qu'un seul père, n'est-ce pas? Donc, c'est une fraternité dont le père est Dieu, et c'est ce père qui nous donne la nourriture, le pardon, etc., etc. Mais nous sommes tous frères. Ne l'oubliez pas. Donc c'est un point qui est assez délicat aussi.
C'est l'exemple de la Sainte Famille, où Joseph n'a rien à voir avec le pater familias de la famille patriarcale.
Et pourtant, tout ce que Jésus a reçu de lui. Moi, souvent, j'invite les gens, à quand ils voient Jésus parler avec une telle puissance, devant une telle foule, ça, auprès de qui a-t-il appris à être un homme? Auprès de qui a-t-il appris sa virilité, si on peut dire, ou appris la puissance de sa parole, son rapport aux autres, le sens d'une société, le sens du travail des hommes? Quand on voit la puissance de Jésus à l'œuvre dans ses prédications, dans ses miracles et tout, c'est pas inutile de penser à Saint-Joseph, au silence de Saint-Joseph, parce qu'on peut dire que ce petit bonhomme, Jésus, il a grandi à côté d'un chêne, quoi. Et Saint-Joseph, c'est un cadeau considérable. Vous savez ce que veut dire le mot Joseph en hébreu? Ça vient d'un verbe qui veut dire augmenter. Fait, c'est un iphil. En hébreu, comme au malgache, d'ailleurs, c'est une des rares langues où il y a le verbe faire intégré dans la conjugaison. En français, faire, c'est presque un auxiliaire. Je lui ai fait dire, je lui ai fait passer un message. Et il y a des langues où c'est vraiment dans la conjugaison. Faire grandir. Joseph, son nom, ça veut dire je fais grandir. Bah, on peut dire que c'était bien trouvé comme nom.
C'est le nom même de l'autorité, quoi, celui qui fait croître. J'ai une toute dernière question, il nous reste très peu de temps et on doit conclure cette émission. Vous savez que Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, a un article sur les états de vie, à propos des états de vie. Il pose la question, est-il permis de désirer l'épiscopat?
Il remarque que désirer l'épiscopat pour les avantages qui s'y trouvent joints, c'est manifestement illicite. Cette manière d'agir relève de la cupidité et de l'ambition. Puis il cite une parole de Grégoire le Grand, Grégoire qui se plaignait d'avoir été retiré de son monastère pour devenir évêque et pape, et pour qui c'était la chose la plus lourde. Mais il notait la chose suivante, il disait le désir de l'épiscopat est louable, était louable au temps où il signifiait la certitude de supplices plus cruels. Autrement dit, si c'est par ambition qu'on cherche à être évêque, c'est très, très, très mauvais, bien sûr, puisqu'on répondrait à la logique du monde dont parlait Jean-Paul II, justement, au début, au moment de votre création comme cardinal. Mais il y a donc une autre logique, une logique qui est celle du serviteur, on en avait parlé, mais même une logique sacrificielle, qui est celle de l'exposition au martyr. Vous êtes conscient, en étant évêque, en portant le rouge cardinaliste, qui est celui du sang, de cette exposition aux persécutions, et est-ce que c'est ça qui vous donne finalement votre liberté ?
Ça fait beaucoup de questions dans une phrase. Alors, désirer l'épiscopat, moi ça fait déjà 16 ans que je suis évêque, donc c'est plus tellement un problème. Quand j'ai été nommé évêque, j'arrivais de Madagascar. J'avais à peine atterri en France depuis 5 jours. Qui m'appelle et dit le pape vous attend, vous allez être évêque à tel endroit. Mais j'avais envie de dire laissez-moi tranquille 2 ans au moins, enfin que je puisse. Bon, pas du tout, vous le serez tout de suite. Après, j'ai même pas eu le temps de me poser des questions que je suis passé de Moulins à Lyon, etc. Donc, même pas eu le temps, quoi. Aujourd'hui, le désir de l'épiscopat, je l'ai. Pour d'autres, c'est-à-dire, il y a des prêtres remarquables, dont je me dis, ah, c'est la prophète qui devient évêque, celui-là, alors je suggère les noms, etc., parce que c'est des types que je trouverais formidables pour ce genre de mission. Et vraiment, je désire qu'ils prennent cette charge, parce que, à mon avis, ils font du bien, quoi. Alors, après, c'est une mission merveilleuse, hein, parce qu'on voit une variété de gens incroyables, parce que épuisante, merveilleux, épuisant, dans lequel on est toujours dépassé, où on avance comme des pauvres. Lors de notre dernière rencontre des évêques de la province de Rhône-Alpes, c'était assez beau parce que on sentait, on a des affaires à traiter, mais aussi on a des beaux temps de partage. Et le temps général, l'un d'entre nous partant à Rouen, là, Monseigneur Lebrun vient d'être nommé archevêque de Rouen, on fait un petit tour d'horizon et la majorité, ils disent, on est perdu, on est dépassé, on sait pas comment on va faire dans 3 ans parce que c'est vraiment dur. Et en même temps, tout le monde très émerveillé. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des choses qui se passent et qui sont magnifiques, superbes, des arrivées, des conversions, des demandes de baptême, vraiment de tous les horizons, qui sont très très touchantes, avec une ferveur assez belle, quoi. Alors donc dans l'Église de France, on est un peu perdu aujourd'hui, parce qu'il y a des pans entiers qui s'effondrent, et puis il y a une force incroyable. Quand j'arrive au conclave en 2013, c'était au moment où il y avait les manifs, etc., et je vois encore l'archevêque de Boston, de Munich, de Madrid, de Croatie qui se pointent vers moi et qui me disent mais qu'est-ce qui vous est arrivé en France, incroyable, vous avez eu donc des énormes manifs dans les rues. Et j'ai dit bah oui, vous pensiez que la France était complètement patapouf, mais c'est pas vrai, quoi. Donc c'est une mission impossible, je suis d'accord, et quand même merveilleuse, quoi, faut dire, parce qu'on est le témoin de, en fait on est le témoin de lieux de ferveur extraordinaire. Ma plus grande joie d'évêque, c'est je racontais ça dans l'homélie d'hier, là, un garçon qui vient me voir et qui me dit ben en fait voilà, je fais ça et ça comme étude, mais je vois bien que le Seigneur frappe à ma porte, donc faut que je lui dise oui, quoi. Alors est-ce que vous voulez bien me prendre au séminaire? Alors je dis oui, bon j'écoute, il raconte son histoire et on voit que ça a été son combat, il y a quelque chose de très joyeux là-dedans parce que il s'est vraiment battu, quoi. Et puis à la fin il a compris qu'il devait dire oui, et moi je lui ménage pas sa peine, quoi. Et je dis bah alors mon garçon, est-ce que t'es prêt à te jeter dans le feu, quoi, parce que faut quand même pas lui mentir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il va falloir que ce soit un amour brûlant. Il le sait très bien d'ailleurs. D'ailleurs, quelle que soit sa vocation, à partir du moment où tu dis un oui qui est un oui décisif et total, eh ben, faut quand même être prêt à se jeter dans les flammes. Bon, voilà. Mais c'est un feu qui ne consume pas. Voilà, un feu qui brûle et qui ne consume pas. On sait ça depuis Exode 3.
Merci, cardinal. On a éprouvé votre ardeur et on sait qu'on va se jeter, on a à se jeter à nous aussi dans le feu. Et j'espère que tous nos auditeurs auront le désir de se jeter dans le feu à votre suite. Vous êtes aussi membre du comité d'honneur de Philanthropos. Vous avez parrainé Philanthropos depuis ses débuts. Il était donc normal, même si ça a été surtout providentiel, de faire cette première émission dans entre nous soit dit, avec vous, Fabrice Hadjadj, donc en présentation, avec le cardinal Barbarin pour cette première émission, et Marlène Caron à la technique. Merci et à bientôt.